Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez maintenant tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les représentants des États membres de l'Union européenne reportent une nouvelle fois leur décision sur le glyphosate. La Commission préconisait un renouvellement de cette autorisation pour 5 ou 7 ans. Elle dit maintenant vouloir fixer prochainement une nouvelle date de réunion. Précision avec Pierre Benazet et Véronique Rebeyrotte. Pendant ce temps, le Premier ministre Édouard Philippe présente un plan d'action qui est destiné à encadrer le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. Traité qui soulève des inquiétudes au sein même du gouvernement. Et c'est ce dont nous parlera tout à l'heure Anne-Laure Chouin. Une nouvelle journée de protestation contre la politique considérée comme libérale du gouvernement, c'est ce à quoi appelle la CGT-FO, Solidaire, mais aussi l'UNEF, la Fidèle et l'UNEL. Ce sera le 16 novembre prochain, un jeudi, commentaire d'Hakim Kasmi. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, confirme ce matin sa candidature à la tête du parti La République En Marche. Il déclare avoir reçu le soutien du président de la République, analyse avec Ludovic Piétenu, l'invité de la séquence interview, la juriste Danielle Favary, spécialiste des questions environnementales. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Nous recevons un invité américain, c'est un journaliste d'investigation, un lanceur d'alerte aussi, comme on dit déjà là au moment de l'affaire Snowden. Il publie aujourd'hui avec son collectif un ouvrage sur la guerre des drones, La machine à tuer, un livre qui paraît aux éditions Lux. On reviendra sur cette nouvelle forme de guerre et les dommages, le mot est faible, qu'elle engendre aujourd'hui.
Avant de développer ces titres, un mot sur cette séance assez poignante qui vient de se dérouler devant la cour d'assises spéciale lors du procès d'Abdelkader Merah, poursuivi, on le sait, pour complicité des 7 assassinats terroristes commis par son frère. On y retrouve Florence Turme, bonjour.
Bonjour.
Parole donnée donc ce matin aux familles des victimes qui avaient donc pour la première fois la possibilité de s'exprimer publiquement.
Oui, elle s'appelle Caroline. Elle a 25 ans. Elle a fait 700 kilomètres ce matin pour venir à Paris, mais elle n'a pas pu s'approcher de la cour et du box des accusés. Quand son compagnon est mort, abattu par Mohamed Merah, elle était enceinte. Elle a accouché 3 semaines plus tard. Et aujourd'hui, c'est le père d'Abel Chenouf qui brandit la photo de son petit-fils à la barre. Très droit, voix forte. Les Merah, ils ont tué mon fils, mais ils ne tueront pas l'amour. Abel Chenouf qui a aussi livré sa colère contre ce qu'il appelle la barbarie naziste. Islamiste. Je respecterai le verdict, je respecte l'institution, poursuit-il, mais j'en veux aux politiques. J'ai écouté Monsieur Squarcini, il vend du vent, le pouvoir est complice de ce qui se passe en France. Et c'est une autre révolte qui résonne dans une salle d'audience littéralement tétanisée. Hatim Ibn Ziaten est le frère aîné d'Imad Ibn Ziaten, la première victime de Mohamed Merah. Je ne vais pas divulguer ma souffrance, mon traumatisme, mais je suis révoltée quand j'entends le frère de Mohamed Merah dire qu'il n'adhère pas aux lois de la République. Il a ses propres lois, il fait la distinction entre les nôtres et les siennes. Dans le box, Abdelkader Merah écoute sans laisser transparaître une quelconque réaction. Je suis révoltée par cette ambivalence, poursuit Hatim Ibn Ziaten, révoltée par cette idéologie qui essaie de nous diviser. Ils ont pris en otage notre religion, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la paix. Il faut résister à cette terreur, conclut-il, je fais confiance à la justice. Sa mère, sa sœur, son frère viennent ensuite à la barre. Images successives d'une famille soudée, fière de sa réussite, unie par l'amour, dévastée par le chagrin, mais toujours très digne. Naoufal Ibn Ziaten est policier et il avoue « Ce 11 mars 2012, la haine m'a fait du pied en me proposant une danse, mais on ne peut pas perdre son humanité. » Il a écrit un texte qu'il lit, parfois en tremblant, dans lequel il s'adresse à son frère. « Mon âme a rejoint la tienne, Imad. Je suis présent tous les jours pour que tu puisses vivre ce procès à travers mes yeux. Nous avons confiance en la justice, répète-t-il lui aussi. Marque une pause. Encore une chose, Imad, chaque jour je pense à toi, je vais vivre à travers ton sourire, ta gentillesse, ta générosité. Je t'aime, ton petit frère Naoufal.
Florence Turme, merci beaucoup donc pour ce compte-rendu de ce qui s'est passé ce matin à la cour d'assises spéciale de Paris dans le procès d'Abdelkader Merah.
La saga européenne du renouvellement de la licence glyphosate qui dure depuis maintenant plus de 2 ans, Antoine Mercier, se poursuivra encore quelques temps. Le sujet n'a pas pu être tranché ce matin.
Et oui, la Commission européenne avait proposé hier une nouvelle autorisation, mais pour une durée d'utilisation réduite, entre 5 et 7 ans, disait-on. L'exécutif européen voulait obtenir aujourd'hui donc cette décision, une décision claire des États membres lors d'un vote attendu au sein d'un comité d'experts réuni à Bruxelles à huis clos depuis le début de la matinée. Mais finalement, donc, ce n'a pas été possible. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour Antoine.
Expliquez-nous pourquoi, pour quelles raisons.
Eh bien, on sait que depuis que le feuilleton du glyphosate a commencé depuis maintenant plus de 2 ans, la préoccupation des États membres est d'arriver à une solution, puisqu'on arrive à échéance de ces autorisations de manière régulière. Actuellement, le glyphosate est autorisé jusqu'en décembre de cette année. Il faut donc une négociation pour une décision rapide sur le renouvellement ou non de cette licence. Plusieurs pays, dont la France en particulier, ont voté ce matin lors d'un premier vote du comité des experts contre ce renouvellement, mais ils étaient 10. Ce qui ne suffit pas à emporter une majorité. On sait que dans ces configurations, il faut, pour une majorité décisionnaire, 55% des États membres, qui représentent 65% de la population. Or, certains pays, grands pays, se sont abstenus, comme l'Allemagne, avec sa population la plus importante de l'Union européenne. Et les 10 pays qui ont voté contre ce matin n'étaient donc pas suffisamment nombreux pour arriver à une décision réelle. Du coup, on va avoir une nouvelle réunion des experts, cela presse, puisque l'échéance est au mois de décembre. Et il va falloir que les pays qui sont arc-boutés contre le renouvellement de la licence parviennent à remporter une majorité face à un nouvel effort de conviction pour constituer un groupe de pays plus important pour décider d'ici décembre. Sinon, la Commission européenne est obligée de prolonger la situation actuelle, c'est-à-dire l'autorisation qui est en cours.
Voilà, en cours et qui serait donc renouvelée pour une dizaine d'années. Pierre Benazet, merci beaucoup, en direct donc de Bruxelles sur cette réunion ce matin. Il y avait aussi une dizaine de manifestants à l'initiative européenne citoyenne Stop Glyphosate, réunis devant le bâtiment qui brandissait des panneaux contre cet herbicide, des ONG, Greenpeace en tête, qui mènent depuis de longs mois une campagne intensive contre la substance. Une pétition pan-européenne aussi a obtenu plus de 1,3 million de signatures. C'est un des plus gros succès pour ce type d'initiative citoyenne dans l'Union européenne. Véronique Rebérotte, bonjour.
Bonjour.
Mobilisation donc forte des opposants, mais la décision a été une nouvelle fois reportée et la question se pose de savoir s'il y a vraiment une volonté véritable au sein de l'Union pour interdire au moins à terme le glyphosate.
La Commission européenne est contrariée, c'est peu de le dire. Cet ultime report montre l'extrême embarras de la Commission européenne et les limites aussi d'un système de lobbying en son sein. Alors le processus de réhomologation du glyphosate a déraillé depuis plus de 2 ans maintenant, qu'en début 2015, alors que les instances européennes s'apprêtent à renouveler pour 15 ans, de 2016 à 2031, l'autorisation de mise sur le marché européen du glyphosate. Au même moment, eh bien mars 2015, patatras, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, c'est une branche de l'Organisation mondiale de la santé, classe le glyphosate comme cancérigène probable. Les ennuis commencent, le glyphosate obtient dans la foulée une autorisation provisoire. L'embarras de la Commission européenne grandit au fur et à mesure que l'on découvre aussi les magouilles, il n'y a pas d'autre mot, de Monsanto pour convaincre le monde entier, l'Europe en particulier, de l'innocuité de son désherbant sur la santé. L'opinion s'en mêle, vous l'avez dit, plus d'un million de signatures recueillies en Europe pour demander l'interdiction du glyphosate dangereux pour la santé et pour les écosystèmes. La fraude scientifique de Monsanto, cette pétition citoyenne européenne d'ampleur et la position aussi hier des eurodéputés contre le renouvellement du glyphosate, eh bien fait que la Commission européenne ne peut ignorer tout ça tout en étant convaincue parallèlement du caractère crucial de l'herbicide pour les agriculteurs européens, pour le modèle agricole européen. Alors 3 possibilités à partir de maintenant, toutes contrariantes pour la Commission européenne, renouveler malgré tout, malgré des citoyens qui ne comprendraient pas qu'on continue pour faire vite à les empoisonner, jeter l'éponge, alors ce qui ouvrirait la porte, et c'est possible, à une attaque en justice de la part de Monsanto, ou bien interdire le glyphosate dans un délai permettant aux agriculteurs de trouver des produits de substitution. C'est ce que demandent les eurodéputés. La Commission européenne a maintenant quelques semaines pour choisir.
Merci beaucoup Véronique Rebérotte. On est en ligne avec notre invité, la juriste Danielle Favary, qui est spécialiste des questions environnementales. Bonjour madame.
Bonjour, merci.
On va parler tout à l'heure du traité de libre-échange avec le Canada, pour lequel le gouvernement présentait ce matin un plan d'encadrement. Mais il se trouve que cette question du glyphosate interfère, qu'elle n'est pas étrangère complètement au CETA. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce qui s'est passé ce matin à Bruxelles?
Je pense qu'il faudrait une interdiction immédiate du glyphosate, qui est un herbicide qui intervient comme herbicide du Roundup de Monsanto, on le sait, et comme l'a rappelé Madame Rebérotte, qui est classée cancérigène probable par l'OMS, mais pas par l'Agence européenne de sécurité des aliments, ni l'Agence l'EFSA ou l'Agence européenne de produits chimiques, et que donc il y a effectivement comment dirais-je, une intervention au niveau des lobbies pour faire que cette prolongation intervienne. Au Canada, d'ailleurs, elle est, depuis le 28 avril, autorisée pour une période de 15 ans, puisque l'épandage à grande échelle existe. Et il faut savoir quand même que le glyphosate est génotoxique et cancérigène probable, comme le rappelle Marie-Monique Robin dans ses différents films, Le Monde selon Monsanto, ou le Roundup face à ses juges, puisqu'elle a filmé le tribunal de Monsanto, où les témoignages des personnes atteintes par cet herbicide étaient quand même assez choquants.
Voilà, vous avez parlé du CETA, on y vient maintenant, puisque le Premier ministre Édouard Philippe présente en ce moment un plan d'action visant à encadrer ce traité de libre-échange donc entre l'Union européenne et le Canada. C'est un texte qui soulève beaucoup d'inquiétudes, et au sein même du gouvernement. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan d'accompagnement et surtout, que va-t-il pouvoir changer à un accord qui est déjà entré en vigueur ?
Alors d'abord, le gouvernement va s'assurer qu'il y aura, je cite, un monitoring très précis et rigoureux pour suivre les volumes d'importation de produits et l'incidence que ces importations peuvent avoir sur le prix des filières les plus sensibles. Ça, c'est une réponse aux inquiétudes des éleveurs français pour qui les énormes quotas de viande canadienne qui vont arriver en Europe, produites dans des conditions bien différentes et moins contraignantes, en général, sont une menace. Est-ce que cette viande produite moins chère et de moindre qualité va pénaliser l'élevage français, déjà soumis à rude épreuve ? La France répond donc qu'il n'est pas question de tolérer l'importation de produits qui ne respectent pas les règles environnementales et sanitaires. Pour cela, elle va proposer à Bruxelles un renforcement des contrôles au sein de l'UE via une force spécialisée anti-fraude dans le domaine alimentaire. Les éleveurs français demandaient, eux, que la filière élevage soit tout simplement exclue du traité. Ça ne semble donc pas à l'ordre du jour. Autre point sensible, ce tribunal arbitral qui était censé régler les potentiels litiges entre États et investisseurs, la France propose de le remplacer par une cour bilatérale d'investissement où les juges seront choisis par l'Europe et le Canada et non plus par les investisseurs eux-mêmes. Du coup, promet Matignon, il sera impossible de s'attaquer à une règle climatique qui primera donc sur les règles de libre-échange. Sur ce point du climat, le plan propose aussi de négocier avec le Canada pour arriver à fixer un prix commun du carbone. Puis sur les carburants issus du gaz de schiste ou encore les OGM dits cachés, le gouvernement se dit là encore confiant dans la possibilité de mettre en place un principe de précaution, malgré le fait qu'il ne soit cité ce principe de précaution à aucun moment dans l'accord. Enfin, le gouvernement annonce une réflexion à venir sur les pratiques commerciales européennes, plus généralement, qui doivent être notamment plus transparentes. Ça tombe bien, l'Europe négocie tout azimut en ce moment. Des propositions qui visent donc à rassurer les ONG qui ne le sont pas rassurés, disons-le d'emblée, mais aussi les parlementaires qui doivent ratifier cet accord d'ici au mieux 18 mois. Que se passera-t-il s'il ne le ratifie pas ? Tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur ce point.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Effectivement, il aurait peut-être été plus judicieux de penser à ces aménagements avant, pendant les négociations, avant que le traité soit signé. Mais il va y avoir une ratification prévue. Daniel Favary, on revient vers vous. Je vous demande de répondre peut-être à la question d'Anne-Laure Chouin. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y a pas de ratification ? Est-ce que ça reste en vigueur ?
Voilà, s'il n'y a pas ratification, parce qu'en fait, effectivement, c'est la première fois que les parlements nationaux sont appelés, enfin que l'ensemble des 38 parlements nationaux et fédéraux sont appelés à se prononcer sur la ratification d'un accord commercial, en ce sens que il se prononce sur la partie mixte d'accords ou compétences partagées qui a trait aux services financiers, aux investissements étrangers autres que directs, ainsi que des dispositions en matière de protection des investissements directs étrangers, donc le mécanisme de différents investisseurs États. Unanimité des parlements requise, qui sera toutefois difficile d'obtenir compte tenu de l'opposition de l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie et notamment de la Belgique, qui le 6 septembre dernier a déposé une saisine auprès de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la compatibilité de l'accord avec le droit communautaire.
Est-ce qu'il va entrer en vigueur ce traité malgré tout ou pas ?
Comme vous l'avez dit, la transparence et le contrôle démocratique dans ces futures négociations devraient permettre d'éviter tous ces écueils dorénavant, parce que c'est ce que Jean-Claude Juncker a souhaité hier. Dans la réalité, donc, il importe de savoir ce qui se passera si l'un des parlements émet effectivement un vote négatif, puisqu'il est donc entré en application provisoire pour une partie importante, quand même, du traité.
90%.
Pardon ?
90% à 95%.
90%, voilà, qui est la compétence exclusive de la Commission européenne, voulue donc par les traités, notamment le traité de Lisbonne qui l'a étendu aux investissements directs étrangers. Donc la mise fin à l'application de cette... La mise fin à l'application provisoire reste juridiquement floue, en ce sens que si elle est prévue, notamment dans l'accord 30.9 de l'accord, disposant qu'une partie peut le dénoncer, que celui-ci s'éteindra 180 jours après la date, cela s'entend, selon moi, comme s'appliquant uniquement à l'Union européenne et au Canada, parce que la mixité de l'accord n'était pas alors prévue dans le traité. La question étant maintenant de savoir si cette disposition sera effectivement étendue aux États membres, puisque c'est à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord UE-Singapour, qu'elle a été décidée pour le CETA.
Donc flou juridique, on ne sait pas vraiment. Alors, pour parler clairement, aujourd'hui, ce qu'a proposé le gouvernement, c'est un plan d'accompagnement. Il n'est pas question pour la France, hein, que ce soit bien clair, vous allez nous le dire, de renégocier ou de demander la renégociation de ce CETA.
Selon Christophe Castaner, il était question effectivement de faire un avenant, puisqu'il y a déjà un instrument interprétatif commun qui est joint à l'accord pour expliquer un certain nombre de dispositions qui ont été obtenues à la suite du blocage par la Wallonie notamment. Donc selon Christophe Castaner, il devrait également proposer une sorte d'avenant au CETA, mais si chaque parlement ou gouvernement ou État membre
propose son avenant,
propose de telles dispositions, on va certainement déboucher sur un certain nombre de blocages, un accord à tiroir avec une possible renégociation à ce moment-là qui requerra l'unanimité au sein du Conseil européen.
Et alors, juste sur ces propositions, est-ce que ça paraît pas un peu naïf, voilà, contrôler les importations, et si on décide par exemple qu'il y a trop d'importations et que ça met en péril la filière élevage, alors quoi ? Qu'est-ce que la France peut faire toute seule dans son coin ?
Alors, ce réponse que la rapide, s'il vous plaît. Faire, pardon ?
Si vous pouvez rapidement répondre à cette question, excusez-moi.
Ce que la France peut faire, c'est demander une clause de sauvegarde, comme l'a obtenue la Belgique lors de son blocage et de ce qu'on appelle l'épisode Wallon. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que la cour bilatérale, elle est déjà en place, puisqu'il y a un système juridictionnel d'investissement avec une cour d'appel pour le règlement des différents investisseurs.
Donc, fausse annonce alors. Merci beaucoup.
Voilà. Merci Daniel Favary d'avoir été avec nous en ligne pour parler de ce sujet compliqué et dont on voit qu'on n'est pas encore sorti du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Amené au de la crise hispano-catalane, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy déclare que la suspension de l'autonomie de la Catalogne est maintenant la seule réponse possible au projet indépendantiste du président. Président de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, il lui reproche de n'avoir voulu qu'un dialogue sous condition. La seule chose qu'il a voulu négocier avec moi, dit-il ce matin, ce sont les termes et les délais de l'indépendance de la Catalogne. À Barcelone, pendant ce temps, des membres de l'exécutif indépendantiste souhaitent une convocation d'élections dans la région pour éviter précisément cette mise sous tutelle par Madrid, convocation qui viserait donc à éviter l'application par le gouvernement espagnol de l'article 155 de la Constitution. On la disait menacée d'effondrement suite au Brexit. L'économie britannique accélère de manière inattendue au troisième trimestre. Le PIB britannique augmente de 0,4% sur la période de juillet à septembre.
France Culture, il est midi 48. La suite de votre journal, Antoine Mercier. Nouvelle journée de protestation contre l'orientation de la politique économique du gouvernement. La CGT, FO, Solidaire ainsi que l'UNEF, la FIDEL et l'UNEL ont appelé hier à une grève et à une manifestation le 16 novembre pour protester contre la politique libérale suivie selon eux par l'exécutif.
Oui, ces organisations estiment qu'un constat s'impose, c'est celui d'une politique libérale qui vise à accroître les inégalités au profit d'une minorité, donc organisation syndicale auquel FO s'est joint cette fois-ci. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Alors, la contestation a du mal, on le voit, lors des dernières journées notamment, à vraiment avoir montré sa puissance ou redémarré. L'élément moteur d'une éventuelle remobilisation, ce pourrait être les étudiants qui dénoncent par ailleurs un budget dont ils estiment qu'il va dégrader leurs conditions. commission d'études.
Et oui, ainsi le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche a bien augmenté de 710 millions d'euros. L'UNEF indique que la part est bien consacrée aux étudiants, soit 194 millions, ne suffira pas. D'autant que seulement 31 millions seront directement dédiés à la formation des jeunes. Quant à celui de la recherche, s'il a bien augmenté de son côté de 500 millions d'euros, eh bien il faut savoir que plus de la moitié de cette somme, cette augmentation, eh bien, sera destinée à rembourser les organismes internationaux. Résultat, selon l'UNEF, le budget alloué aux étudiants aurait diminué de 10% depuis 10 ans. À cela s'ajoutent les conditions d'études qui se détériorent dans les facultés, avec la hausse démographique plus 40 000 étudiants supplémentaires. Cette année, c'est l'équivalent d'une université française. Les amphis sont surchargés, sans parler de la vétusté des locaux, et aussi eh bien, des milliers d'étudiants restés sans formation, la faute à APB et aux places dans les universités, notamment en STAPS. Du coup, l'UNEF demande un investissement de 2 milliards d'euros sur 10 ans pour améliorer les conditions de vie dans les facultés, des conditions qui se ressentent aussi dans la vie personnelle des étudiants, puisqu'ils sont hélas de plus en plus nombreux à refuser de se soigner pour faire des économies. La baisse de 5 euros des appels n'a pas non plus facilité les choses, tout comme le nombre de logements universitaires qui ne représentent que 8% des logements étudiants, autant de raisons qui font que l'UNEF appelle à manifester avec les organisations syndicales le 16 novembre prochain.
Hakim Kasmi, merci.
Le paysage politique français toujours en chantier après les chocs électoraux du printemps. Hier, le bureau politique des Républicains a approuvé l'exclusion de ses 5 responsables pro-Macron, mais faute de quorum, la décision n'a pu être validée.
Et oui, il y aura une nouvelle réunion qui est prévue dans quelques jours pour valider ces évictions. Dans le camp macroniste maintenant, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner confirme ce matin qu'il est bien le candidat, enfin en tout cas candidat à la direction de La République En Marche. Il a été adoubé par ailleurs par le président, affirme-t-il. La République En Marche qui se structure, Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce qu'elle se structure, disons, sur un mode maintenant plus traditionnel ?
Il est des choses qui en politique ne changent pas. Être adoubé par le président de son parti pour en prendre la suite, comment imaginer d'ailleurs une seule seconde la chose autrement, qui plus est avec un parti qu'Emmanuel Macron a créé de toutes pièces, sur son nom, avec ses initiales EM En Marche, et avec un carré de fidèles, Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, Julien de Normandie, Ismaël Émilien. Ce dernier s'occupe de la stratégie présidentielle depuis l'Élysée, les trois autres sont au gouvernement. Le choix devait forcément se porter sur l'un de ces trois-là. Ils sont plus identifiés par les militants et par les médias. Castaner, de par sa fonction de porte-parole du gouvernement, l'est plus encore que les deux autres. Il a donc hérité du bébé d'Emmanuel Macron, délégué général de La République En Marche, validé, s'il vous plaît, par un vote le 18 novembre lors du premier Conseil national du parti. Il est toujours mieux d'y ajouter un soupçon de démocratie interne. Une question enfin qui découle de ce choix du prince. Castaner peut-il être à la fois chef de parti alors qu'il est déjà porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement ? On se dit que cela devrait conduire inévitablement à un mini-remaniement, mais là encore, entre le monde d'avant et le prétendu nouveau monde, pas forcément. Secrétaire d'État à Bercy, Benjamin Griveaux sur Europe 1 ce matin dit ceci, porte-parole et patron d'un parti, vraisemblablement c'est compliqué de faire les deux, mais en revanche, membre du gouvernement et patron d'un parti, rien n'est incompatible. Castaner, le principal intéressé, évoque la chose dans les mêmes termes, mais attention, d'autres considèrent au contraire qu'il ne peut pas cumuler, c'est donc le dilemme de l'ancien monde auquel est confronté Emmanuel Macron et qui lui reviendra de trancher avec son Premier ministre Édouard Philippe.
Ludovic Piétenu, merci. Des centaines de milliers de témoignages sur les réseaux sociaux, des flots de commentaires, d'articles de presse, de débats après les révélations d'actrices sur le producteur américain. Le harcèlement sexuel et plus généralement les agissements sexistes continuent donc de connaître un retentissement inattendu. Lise Verbeck, bonjour.
Bonjour.
Alors on va suivre comme ça régulièrement la montée du phénomène qui se prolonge, qui s'amplifie. Est-ce qu'on peut d'abord prendre la mesure de cette progression de l'expression sur le sujet?
Alors si l'on regarde les chiffres sur Twitter, plus de 2 millions de tweets ont été écrits avec le hashtag MeToo, moi aussi, qui a démarré aux États-Unis, et près de 485 000 pour le hashtag Balance ton porc en France, selon la plateforme de veille VisiBrain. Des chiffres énormes, sans compter les autres hashtags qui apparaissent depuis quelques jours ailleurs, en Tunisie, en Égypte ou encore à Dubaï. Ces témoignages viennent de femmes de tous les milieux, de toutes les professions, de tous les âges, qui parlent visage découvert ou anonymement, de faits anciens ou récents, de harcèlement sexuel au travail et dans l'espace public, mais aussi de viol. L'année dernière, il y avait déjà eu des mouvements de ce type. Une Ukrainienne militante pour les droits de l'homme et les droits de la femme avait lancé un hashtag « Je n'ai pas peur de parler » en ukrainien et en russe, ou encore le hashtag « Not OK » aux États-Unis quand une vidéo de Donald Trump parlant en termes grossiers des femmes qu'il convoite avait été diffusée. Mais cette fois-ci, l'ampleur est inédite. Pour l'historienne du féminisme Michèle Rio-Sarcé, c'est la première fois qu'il y a un mouvement collectif de femmes pour surmonter les tabous et les hontes. C'est la première fois que les femmes s'autorisent à parler et à exister dans l'espace public collectivement et de manière répétée.
Oui. Alors ce matin, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se disait impressionnée par la puissance de ce mouvement dont on vient de parler. Sur France Info, elle incitait même les personnes victimes de violences sexistes ou sexuelles à aller porter plainte. On l'écoute.
Ce qui m'intéresse, c'est que les choses se traduisent de manière concrète. D'abord, je suis très attachée à ce que les femmes puissent parler, comme cela a été le cas depuis le hashtag « Balance ton porc ». Et je trouve que ce sont des révélateurs extrêmement puissants. Mais indépendamment de cela, ce qu'il faut, c'est essayer de traduire ces paroles en actes, lorsque cela est encore possible. Autrement dit, éventuellement, de porter plainte s'il y a matière à le faire. Et moi, je continue à encourager les femmes à traduire cela en actes.
La ministre donc incite les personnes victimes du harcèlement à aller porter plainte, ce qui est assez peu le cas actuellement, Lise.
Mais seules 5 femmes sur 100 qui indiquent être harcelées sexuellement dans le cadre de leur travail ont entamé des poursuites judiciaires, selon une enquête du Défenseur des droits de 2014. Une procédure souvent lourde car double, explique un avocat en droit du travail, car il y a la plainte au commissariat, donc au pénal, et la procédure au prud'homme, car l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés. Des démarches conséquentes et longues qui peuvent décourager. L'autre problème, selon cet avocat, c'est qu'il n'y a pas dans les entreprises d'obligation légale de mettre en place des procédures bien définies pour traiter les dénonciations de harcèlement. Dans la plupart des cas, les femmes sont licenciées suite à une dénonciation. Entre 1000 et 1200 plaintes sont déposées chaque année en France. Plus de 90% d'entre elles sont classées sans suite, souvent faute de preuves.
Merci beaucoup, Lise Verbeck.